Stop, c'est parti.
Français.
Deux condamnations ce soir dans deux affaires d'offense au chef de l'État.
Mesdames et messieurs,
on écoute le président de la République.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce hors-série de l'Instant M.
Vous êtes convaincus de crime de lèse-majesté, je l'ai dit, casse-toi, cocon.
Vive la République, vive la France.
Roi, empereur, président, deux siècles que le chef de l'État se fait copieusement insulter par voie de presse. Raillerie, édito féroce, caricature. L'Instant M remonte le temps de ses attaques personnelles et des procès qu'elles ont engendrés pour crimes de lèse-majesté. Ainsi, je vous propose 5 épisodes pleins d'insolence et de noms d'oiseaux. Un voyage au pays du délit d'offense que nous entamons au 19e siècle. Le dessin de presse y est une arme de combat. Ceux qui prennent le pouvoir promettront les uns après les autres de lâcher du lest. En réalité, les journaux finiront tous aux tribunaux. Les 5 épisodes de cette série, de Napoléon à Macron, sont déjà disponibles en podcast sur franceinter.fr et sur notre application.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
À chaque épisode, son entrée en musique. Rossini, le voyage à Reims, qui célèbre, tout en le moquant, le couronnement de Charles X. Bonjour Benoît Pro.
Bonjour Sonia.
Benoît Pro, vous n'êtes ni journaliste, ni éditeur de presse, vous êtes collectionneur de journaux anciens. Nous entamons cette série au tout début du 19e siècle, à la Restauration, avec l'arrivée des rois. Le premier d'entre eux est Louis XVIII, qui s'empresse de faire voter le délit d'offense.
Ben oui, alors De Serres qui était le ministre de la Justice, oui. De Louis XVIII,
oui.
Sans arrêt, au 19e, on va libérer,
oui.
Et ensuite refermer la liberté de la presse jusqu'à la grande loi de 81. Et là, effectivement, il libère, il n'y a plus d'autorisation préalable, il supprime la censure, oui. Et en même temps, il resserre, parce que c'est là qu'est créé le délit d'offense au roi,
mm-hmm.
qui va être énormément utilisé par les deux rois de la Restauration et par Louis-Philippe, et par les autres d'ailleurs aussi.
C'est un retour, en fait, hein, une réapparition du crime de lèse-majesté dans le droit français.
Tout à fait. Alors, oui, avec ressemblance et différence. Crime de lèse-majesté, quand même, on risquait sa vie. Hein,
oui.
Comme vous disiez, du mal du roi sous l'Ancien Régime,
oui.
Vous pouviez être condamné à mort. Donc, c'était vraiment l'arbitraire royal. Et la grosse différence, quand même, c'est que la Révolution est passée par là.
Mm-hmm.
Et donc, le statut du roi n'est plus du tout le même.
Mm-hmm.
Et du coup, ce que vous risquez est quand même beaucoup moins élevé. Vous risquez une amende, bien sûr,
oui.
Et quelques mois, et rarement jusqu'à 5 ans de prison.
C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que après Louis XVIII viendra Charles X. Charles X qui matraquera littéralement la presse.
Mais alors Charles X, comme son frère Louis XVIII, comme le suivant Louis-Philippe est arrivé en disant « Moi, la presse, j'adore, je ne ferai rien », il s'est empressé
oui.
De ne pas tenir ses promesses. Là, c'est vraiment le régime le plus réactionnaire de cette époque-là. On n'aimait pas la presse, on n'aimait pas les libéraux, on n'aimait pas tout ce qui dépassait. Et donc là, il a utilisé tous les moyens à ses dispositions. Ça a été de la censure, ça a été de l'autorisation préalable,
mm-hmm.
ça a été de la poursuite des journaux, du cautionnement, donc obligation, ça a été une mesure redoutable, obligation pour les journaux qui voulaient parler de politique, de verser une somme d'argent à importante pour que le gouvernement soit sûr qu'ils aient de quoi payer les amendes au cas
c'est
où
ça.
Ils seraient condamnés. Autre mesure redoutable, le timbre. Obliger les journaux avant impression à timbrer chaque feuille et qui avait comme conséquence immédiate que suppression de la vente au numéro, plus possible à cause du coût des invendus
oui.
Et uniquement des abonnements, ce qui était l'un des buts de Charles X, de diminuer drastiquement la circulation de la presse.
Alors, l'un des journaux hein, qui sera ainsi plusieurs fois condamné pour offense à la personne au roi sous Charles X, c'est le journal des débats, qui était un journal extrêmement puissant. Mais d'ailleurs, on peut dire que Charles X va finalement devoir sa chute à la volonté de bâillonner la presse.
C'est la première fois que la presse réussit à faire tomber un roi. Ce sera la seule fois de l'histoire de France.
Ouais.
C'est les fameuses Trois Glorieuses. Le 26 juillet, Charles X sort une ordonnance dont le premier article est très clair. La liberté de la presse est supprimée.
Mm-hmm.
Les journalistes ne laissent pas faire. Thiers, en premier, qui a créé le National quelques mois avant, décide de rédiger une protestation en disant « c'est pas possible ». Il l'a fait signer par 44 de ses confrères, journalistes et directeurs de journaux. Et il la publie dans leurs journaux sans demander l'autorisation nécessaire. le pouvoir réagit en envoyant sa police pour casser les presses de leurs imprimeurs. Et c'est le début de la révolution. Et 3 jours après, Charles X est obligé de partir.
Et moi, je vous fais écouter la fin de Jacoule Croquant, qui était une très belle adaptation de l'ORTF à la fin des années 60. Elle nous replonge en 1830, au moment de la chute du roi. L'offense faite au roi, c'est le sujet du hors-série de l'instant M qui deviendra l'offense faite à l'empereur, puis l'offense faite au président de la République. Avant de parler de la période de libéralisation qui va suivre Benoît Pro, j'aimerais qu'on évoque les caricatures contre Charles X.
Juste avant les Trois Glorieux, c'est effectivement le début des journaux à caricature et les débuts, alors qui à cette époque-là avait une forme très particulière puisqu'on ne savait pas imprimer en même temps les images et le texte. Donc on avait d'un côté le texte en noir et blanc et à côté ce qu'on appelait des hors-textes, c'est-à-dire des dessins qui étaient publiés en lithographie sur des feuilles à part, très épaisses, et ceux qui étaient en couleur étaient coloriés à la main. Donc inutile de vous dire que la diffusion n'était pas énorme, parce qu'il fallait colorier tout ça à la main au pochoir. Et effectivement, sous Charles X, on commence à voir apparaître des caricatures. La Silhouette, c'est le premier journal lancé par Philippon, qui ensuite se fera connaître par la caricature, le plus grand journal satirique français, et où démarrent des artistes comme Doré ou Daumier, des artistes absolument superbes. Et c'est effectivement la première fois qu'ils se permettent de représenter le roi en jésuite, parce qu'à ce moment-là, les jésuites n'avaient pas bonne presse,
c'est
et donc
ça.
C'est une façon de se moquer de lui. La Silhouette a été saisie effectivement un nombre de fois absolument incalculable et finira par disparaître à la fin de 1830.
Alors on va préciser qu'entre 1830 et 1848, le tirage des quotidiens parisiens va littéralement quadrupler, que Le Siècle par exemple est déjà tiré à plus de 40 000 exemplaires. On va revenir sur ce célèbre Philippon, sur la caricature et puis sur le Charivari qui va réellement rester comme un marqueur de cette époque. Il est le premier quotidien illustré avec une lithographie par jour. Il sera lourdement poursuivi par la justice pour ses caricatures politiques. Je voudrais, Benoît Pro, que vous nous racontiez l'affaire de la poire.
Alors l'affaire de la poire, c'est l'une des plus belles histoires de presse, cette caricature.
La poire séditieuse.
La poire séditieuse. Philippon, donc le directeur de la caricature, qui est devenu le fer de lance de l'opposition à Louis-Philippe, n'arrêtait pas de se faire poursuivre pendant la carrière de la caricature, qui est parue de novembre 1830 à août 1835. Il a eu 30 saisies. Ces journalistes ont eu 10 procès. Lui a été 3 fois en prison. Daumier a été 1 fois en prison et des milliers et des milliers de francs d'amende. Un jour, lorsqu'il était assisté à un procès en novembre 1831, il a l'idée de faire des dessins et de transformer Louis-Philippe en poire en 4 dessins. Premier dessin représente Louis-Philippe, deuxième dessin on simplifie, troisième on simplifie encore, quatrième dessin on simplifie tellement que ça ressemble à une poire. Et il dit au président du tribunal, écoutez, puisque vous me condamnez pour le premier dessin, faut me condamner pour le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et donc faut me condamner pour avoir dessiné une poire. Du coup, la poire est devenue le symbole de
Louis-Philippe,
l'emblème de Louis-Philippe, et dès les jours suivants, on a vu des poires sur tous les murs de Paris et de province. Et Louis-Philippe avait complètement raté son coup.
C'est passionnant parce que la monarchie de Juillet, qui s'annonce libérale au début, puis qui va voter la loi de 1835, qui sera extrêmement restrictive, une loi qui sera d'abord abrogée en 48, ensuite restaurée en 52, ça montre à quel point le contrôle de la caricature politique, de la caricature du chef de l'État, ce sera la question la plus sensible et la plus obsédante jusqu'à la fin du 19e siècle, Benoît Pro.
Ah oui, parce que la loi de septembre 1835, donc qui a muselé la caricature, est la une loi absolument terrible. L'un de ses articles dit « Il ne sera interdit de publier un dessin ou une caricature sans autorisation préalable. » Ce qui voulait dire en clair que le dessinateur devait montrer son dessin à la censure avant publication.
C'est génial.
Donc, conclusion, plus question de faire du dessin politique.
Évidemment.
On ne fait plus que du dessin de mœurs. On ne montre plus que des maricocus et des histoires de famille. Donc ça change tout et le pouvoir contrôle enfin effectivement la satire.
Alors je vous fais écouter un autre extrait de fiction française où sera rejoué un discours prononcé par Victor Hugo devant l'Assemblée en 1848.
Eh bien nous messieurs, aujourd'hui, nous allons détruire tout cela. Nous allons faire reculer la France, le siècle, l'humanité. Parce que vous vous croyez en posture de demander la révision de la Constitution à votre bénéfice et d'escamoter à votre profit la souveraineté du peuple. Et qui êtes-vous, messieurs, pour livrer de telles batailles? Qui êtes-vous? Comment vous nommez-vous? Eh bien, je vais vous le dire. Vous êtes la monarchie et vous êtes le passé. Et parce que votre vieille monarchie est dans la tombe, vous êtes prêts à accepter la monarchie impériale. Alors quoi? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit.
Ah, Napoléon le Petit, voilà qui va faire des émules. Nous poursuivons donc cette relecture du 19e siècle à travers l'offense faite au chef de l'État. 300 journaux en 4 mois après l'abdication de Louis-Philippe, une début d'une période extrêmement faste hein, pour la presse. Ce sera même 1848, Benoît Pro, une année incroyablement féconde dans toute l'histoire de la presse française.
C'est l'année dans laquelle il y a eu le plus de création de journaux.
Ah oui.
C'est cette année-là. Et ce qui est symbolique pour l'importance de la presse par rapport au pouvoir politique, c'est que dès la répression de la Révolution de 48, en juin 48, une des premières mesures prises après, c'est de nouveau suppression de la liberté de la presse, retour du cautionnement, retour de toutes les mesures contre la presse.
C'est ça qui est passionnant, c'est que la presse, c'est vraiment le lieu de combat et de libéralisation, de répression et au contraire d'ouverture de tout le 19e siècle. C'est un vrai terrain politique.
C'est un vrai terrain politique et la presse ne sera libre au 19e siècle que quand la liberté sera au pouvoir, c'est-à-dire en 48.
Oui, la Seconde République.
Et pendant quelques mois, entre la proclamation de la Troisième République, septembre 70, et la fin de la Commune, mars 71. Et ce sera tout.
27 juillet 1849, retour de l'offense faite au président de la République, qui deviendra, en juin 1853, Benoît Pro, l'offense envers l'empereur, qui est réinstauré dans le code pénal, élargi à tous les membres de la famille impériale. Et en fait, avec Napoléon III, on revient aux mœurs napoléoniennes, on revient à la haine de Napoléon Ier pour les journaux et à sa méfiance.
Alors, Napoléon III était vraiment comme son oncle de ce côté-là. C'est vrai qu'il détestait la presse. Mais il n'y a pas beaucoup utilisé l'offense à l'empereur parce qu'il avait mis en place un tel arsenal de mesures pour museler la presse. Il a tout utilisé. L'autorisation préalable pour créer un journal. Le cautionnement, dépôt d'argent important pour que les journaux aient de quoi payer les amendes. L'interdiction de reproduire les procès de presse. L'interdiction de reproduire les débats des assemblées autrement qu'en recopiant le procès-verbal officiel. Il a transféré, chose importante qu'avait déjà fait avant lui certains rois, les procès de presse aux tribunaux correctionnels et non plus aux jurys d'assises qui trouvaient beaucoup trop clément parce que le bon peuple qui est dans les jurys se rend pas bien compte de la méchanceté des journaux. Et surtout, il a mis en place des avertissements où il pouvait, sans donner de motif, donner un avertissement au journal, sans frais, deuxième avertissement, 2 mois de suspension, troisième avertissement, suppression. Inutile de vous dire que face à ça, les journaux pratiquaient une autocensure totale et permanente. Ça s'ouvre uniquement à la fin 68, libéralisation de la presse.
Ouais.
Et là, comme par hasard, il a à nouveau besoin de son délit d'offense, puisque par exemple, Rochefort est condamné pour ses deux journaux, La Lanterne en 68 et La Marseillaise en 70, les deux fois condamnés pour délit d'offense à l'empereur.
Un mot sur La Lanterne, parce que là aussi, c'est un journal resté célèbre dans l'histoire de la presse française.
Journal extraordinaire, mai 68, le premier numéro qui démarre par sa première phrase. Sire, il y a en France 40 millions de sujets, sans compter les sujets de mécontentement. Inutile de vous dire que La Lanterne a eu un succès fou.
Oui.
Et beaucoup d'historiens disent qu'elle a été vraiment un moment très important pour aider la chute de Napoléon III.
J'aimerais, Benoît Pro, que vous nous racontiez La Lune, fondée en 1865, et que vous nous racontiez ce que sont que les grosses têtes et les portraits charges.
Alors, La Lune, c'est un très beau journal, un grand format avec en une toujours un dessin en couleur, une caricature en couleur. Le grand dessinateur de La Lune, c'est André Gide, qui avec Daumier fait partie des deux plus grands dessinateurs caricaturiques du 19e siècle. L'idée, c'est on prend une tête, on fait une énorme tête, on grossit les traits, on déforme, c'est le rôle de la caricature, déformer tout ce qui peut l'être, et on la pose sur un tout petit corps. Et donc, il a fait ça avec tout le personnel politique de l'époque, bien sûr. Il a fait ça avec les actrices, avec les. Il a fait des portraits superbes de Victor Hugo. Mm-hmm. Il a fait des portraits superbes de Wagner, de journalistes, de Rochefort. Et il, la Lune s'est fait censurer un nombre de fois, elle aussi, hallucinant, incroyable. Mais ils ont continué, et c'était sans arrêt un jeu de cache-cache entre André Gide et la censure.
Autre grand patron de presse à l'époque, Louis Ariste, qui lui aussi va être condamné plusieurs fois pour délit d'offense au roi et qui pourtant va réitérer. J'aimerais que nous achevions ce 19e siècle avec ses périodes d'ouverture et ses périodes de recul avec la Commune. La Commune avec Jules Vallès et son cri du peuple. Parce que là aussi, à travers la presse, c'est un vent de liberté face à la personne du chef de l'État qui va souffler sans précédent, Benoît Prot.
C'est un moment de liberté au début, et après ça, la Commune, comme souvent les régimes forts ou les régimes révolutionnaires n'aiment pas trop la contestation, et la Commune fera malheureusement, comme Napoléon III avant ou les rois avant, interdira un certain nombre de journaux. Mais c'est vrai que Vallès et son Cri du Peuple, le Cri du Peuple a été avec le Père Duchesne l'un des deux journaux les plus diffusés pendant la Commune. Mm-hmm. C'était un communard, c'était un homme de gauche. Il suivait et il soutenait la Commune, mais il ne soutenait pas ses excès et il essayait de rester effectivement à l'endroit en disant des choses que les autres n'aimaient pas toujours entendre.
De toute évidence, la liberté de la presse est synonyme de l'avènement de la République en France et la République synonyme de la liberté de la presse. C'est indissociable comme mouvement, Benoît Prot.
C'est indissociable et on le voit très bien parce que les premières années de la République, 4 septembre 1870, proclamation de la Troisième République, oui. Et donc après la semaine sanglante et la fin de la Commune, on est en mai-juin 1871, entre 1871 et 1881, la presse n'est pas libre du tout, puisque la République n'est pas encore instaurée. C'est un mélange de monarchistes, de napoléoniens et de bonapartistes et de républicains qui se disputent le pouvoir. Et donc la presse, notamment la presse républicaine, souffre beaucoup. Il n'y a jamais eu autant de censure. Et Mac Mahon, qui est président de la République entre 1873 et sa démission en 1879, utilise comme un malade l'offense au président de la République. Mmh. C'est lui qui, parmi les chefs d'État du 19e, aura le plus utilisé cet article, parce qu'il ne supportait pas les journaux républicains qu'il remettait en cause.
Mille merci, Benoît Prot. L'histoire de France racontée par la presse de Louis XIII à la Seconde Guerre mondiale vient de sortir chez Géo Histoire. Le crime de lèse-majesté quand la presse insulte le chef de l'État. C'est la fin de ce premier épisode. Demain, naissance d'une loi magistrale, celle de 1881 sur la liberté de la presse. Le texte maintiendra-t-il le délit d'offense ? Suspense.